Bonjour à toi, chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons peu, parlons bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des épisodes de vulgarisation scientifique et d'actualité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur la pollution lumineuse en mer. Alors vous l'aurez sans doute remarqué, mais la fréquence de publication des épisodes a drastiquement réduit, et ça pour deux raisons. La première raison, c'est que à côté de mon podcast, qui est une activité bénévole, eh bien je travaille en tant que chargée de projet marin dans un parc national. Mais mes missions arrivent à terme, et c'est pourquoi aussi j'ai décidé d'un peu de changement dans le podcast. J'ai envie de vous proposer du contenu plus scientifique, ou du moins de vulgarisation scientifique, à la place des interviews de personnalités. J'ai envie de pouvoir vous proposer un nouveau type d'épisode que j'avais commencé à faire sur la Tortica One, par exemple, dans lequel je décrypte un sujet et des articles scientifiques liés à la mer, bien évidemment. Donc si ce type d'épisode vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à liker, à partager cet épisode autour de vous. Allez, tout de suite, on se retrouve pour parler de la pollution lumineuse en mer. Le monde de la mer est confronté à toutes sortes de pollutions, chimiques, physiques, sonores et lumineuses. Chimiques, on parle des rejets en mer, d'hydrocarbures ou des eaux usées par exemple, physiques comme le plastique, et sonores comme les bruits des navires et des villes. Et nous, on va parler de cette dernière pollution et particulièrement de son impact sur la biodiversité marine, la pollution lumineuse ou la lumière artificielle de nuit. Parce que de nombreuses études ont montré que cette pollution cause des dégâts irréversibles sur la vie sous-marine. Aujourd'hui, c'est 22% des régions côtières dans le monde qui sont victimes de cette pollution et qui affectent la survie, la croissance et la reproduction de nombreux organismes marins. Alors il faut savoir qu'il existe deux types de pollution lumineuse, la pollution directe, celle qui nous éblouit, la pollution indirecte, dite diffuse, qui crée des halos lumineux visibles à des centaines de kilomètres. Et ces lumières touchent particulièrement les espèces qui vivent à proximité du littoral, des ports, des docks, dans les cours d'eau, aux abords des hôtels flottants, et même à proximité des navires et des plateformes offshore. Oui, on parle bien des plateformes pétrolières et gazières. Et pour vous expliquer tout ça, on va s'appuyer sur 5 études relativement récentes. Pour chacune d'entre elles, on verra ensemble les méthodes que les chercheurs ont employées, et bien sûr les résultats. Cet épisode nécessite quelques petites bases de science, mais si vous voulez quelque chose de plus vulgarisé, eh bien vous pouvez nous rejoindre sur Instagram. J'ai fait des petits reels qui reprennent les points importants de ces études. Allez, on commence tout de suite avec la première étude de l'université de Plymouth au Royaume-Uni de Davis, McGee et Fishwick et Hall, publiée en mai 2023. Cette étude, elle montre que la lumière artificielle émise par les villes côtières peut atteindre jusqu'à 3 quarts, soit 76% des fonds marins. En gros, elle a permis de quantifier l'impact de la pollution lumineuse côtière sur la mer et le fond marin dans les régions de l'estuaire de la Tamar et de la baie de Plymouth Sound au Royaume-Uni, là où il y a l'un des plus grands ports navals d'Europe. Pour ça, les chercheurs se sont basés sur des seuils d'irradiance biologiquement importants pour évaluer les réponses des copépodes Calanus à la lumière. Mais qu'est-ce que c'est tout ce charabia? Alors tout d'abord, les copépodes Calanus, ce sont des crustacés. Et les seuils d'irradiance biologiquement importants, c'est le niveau de lumière à partir duquel un organisme commence à modifier ses cycles d'activité, à changer ses schémas de migration, ou à présenter d'autres réponses comportementales ou physiologiques mesurables. En gros, ils deviennent un peu schizo. Et donc, en se basant sur ces seuils d'irradiance, les chercheurs ont constaté une exposition significative de la surface du fond marin à la lumière artificielle bleue, verte et rouge, en particulier pendant les marées basses. Mais je me demande si c'est pas juste parce qu'il y a un peu moins d'eau. Mais bon, ce papier ne s'arrête pas là. Il montre aussi que l'utilisation de la lumière artificielle rouge la nuit peut réduire l'exposition des habitats marins à la lumière puisque celle-ci, contrairement à la lumière bleue et verte qui ont des longueurs d'onde plus courtes et qui pénètrent plus profondément dans l'eau, a une tendance à s'atténuer plus rapidement dans l'eau et est moins visible pour les animaux marins parce qu'elle émet des longueurs d'onde plus longues. Mais bon, ça ne veut pas pour autant dire que la lumière rouge a zéro impact, elle en a tout de même. Étude suivante. En 2020, des chercheurs ont alerté sur l'impact de cette pollution en Arctique. Ils ont montré que la lumière artificielle de nuit perturbe le comportement des poissons et du zooplancton jusqu'à 200 mètres de profondeur. Et ça, c'est assez inquiétant parce que l'Arctique, c'est l'un des derniers endroits sombres et préservés de la planète et où la seule lumière est celle de la lune, des étoiles et des aurores boréales qui guident depuis des millénaires les interactions entre les prédateurs et les proies. Et si on part du principe que la lumière artificielle croît de 6% en moyenne chaque année, cette pollution représente pour ces sanctuaires une véritable menace écologique. Les récentes avancées dans l'étude des écosystèmes marins arctiques révélaient une activité continue à tous les niveaux trophiques, même pendant la nuit polaire où la différence d'illumination est minime. Les organismes marins restent actifs et ajustent leur comportement au cycle diurne de l'illumination solaire de fond, comme la migration verticale diurne et les interactions trophiques influencées par la bioluminescence. Ce qui veut donc dire que les organismes arctiques sont probablement très sensibles à la lumière artificielle, en particulier pendant la nuit polaire. Pour mener cette étude, les chercheurs ont utilisé le RV Elmer Hansen, c'est un navire de recherche, en dérivant sans propulsion dans différentes zones de l'Arctique. Ils ont commencé par étudier la composition des espèces en effectuant des échantillons de poissons et de zooplancton sur différents sites, en se concentrant sur les espèces dominantes à chaque endroit. Ensuite, les lumières anormales du navire ont été allumées et éteintes à des intervalles spécifiques. Et enfin, à l'aide de sondeurs acoustiques, ils ont mesuré la réponse des communautés marines à la lumière artificielle jusqu'à 200 mètres de profondeur. Les données ont révélé des changements significatifs dans la distribution verticale des organismes marins. Les chercheurs se sont basés sur la rétrodiffusion acoustique. C'est la façon dont les ondes sonores sont réfléchies ou diffusées par des objets ou des organismes présents dans un milieu aquatique. Lorsque des ondes sonores rencontrent un objet, comme un poisson, du zooplancton ou d'autres, une partie de ces ondes est réfléchie dans différentes directions. C'est une méthode qui nous permet de comprendre leur distribution spatiale et leur comportement. Et dans cette étude, les chercheurs ont constaté une baisse de rétrodiffusion acoustique, ce qui signifie que moins d'ondes sonores sont réfléchies ou diffusées par les organismes pélagiques en réponse à la lumière artificielle du navire. Autrement dit, la présence de lumière artificielle semble avoir un effet sur la façon dont ces organismes interagissent avec les ondes sonores émises dans l'eau. Les chercheurs ont montré que cette diminution de la rétrodiffusion pouvait atteindre 83% à certaines distances du navire, ce qui veut dire que la lumière artificielle peut avoir des effets étendus sur la distribution et le comportement des organismes marins dans leur environnement naturel. Et la lumière artificielle du navire perturbe non seulement le comportement des organismes jusqu'à 200 mètres de profondeur, mais elle introduit aussi un biais dans les études biologiques et les évaluations des stocks de poissons. En gros, les enquêtes biologiques menées dans l'obscurité à partir de navires illuminés pourraient fausser nos perceptions de la vie marine dans l'Arctique. Troisième étude est l'une de mes préférées dans le sens où elle révèle très clairement l'impact de la lumière artificielle sur le comportement des poissons et particulièrement le poisson clown que j'adore, l'amphiprion chrysopterus dans les récifs coralliens. Il s'agit d'une étude publiée en 2021 par Jules Schlieger et Hall, mes excuses si j'écorche le nom. Cette étude vise à évaluer l'impact à long terme de l'exposition à la lumière artificielle sur la survie et la croissance des juvéniles des poissons clowns dans la lagune de Moorea en Polynésie française. Pour étudier ça, les chercheurs ont sélectionné trois sites récifaux exposés à l'éclairage terrestre à long terme, qu'ils ont comparés à des sites sans éclairage artificiel. Ils ont mesuré les intensités lumineuses et le rayonnement photosynthétiquement actif dans chaque site. C'est la partie du spectre lumineux qui est utilisée par les plantes et les organismes photosynthétiques pour la photosynthèse. Puis, ils ont surveillé la survie des poissons clowns pendant plusieurs mois. Les résultats ont révélé des différences significatives dans les intensités lumineuses entre les sites exposés à la lumière artificielle et les sites de contrôle. Les poissons clowns exposés à la lumière artificielle avaient une probabilité de survie plus faible, surtout après une exposition prolongée. Si je vous donne quelques chiffres, une exposition longue à la lumière artificielle entre 18 à 23 mois réduit le niveau de survie en moyenne de 36% et la croissance à 44% des juvéniles. Les poissons juvéniles sont les plus touchés par la lumière artificielle avec une mortalité élevée au cours du premier mois d'exposition. En résumé, les poissons exposés à la lumière artificielle présentent un taux de croissance plus bas en termes de taille et de poids. Quatrième étude publiée en mai 2023 par Thomas Davis a montré que la lumière artificielle perturbait la ponte des coraux. Pour comprendre tout ça, petit cours sur la reproduction des coraux. Alors c'est un spectacle assez incroyable et très bien organisé, certains coraux produisent des œufs et des spermatozoïdes toute l'année, tandis que d'autres ne le font que quelques fois par an, mais de manière vraiment massive et synchronisée. Par exemple, dans le sud-ouest de l'océan Indien, les acropora, ou coraux cornes de cerf, libèrent leurs gamètes tous en même temps, sous forme de petites billes roses. C'est un phénomène qui se produit quelques jours après la pleine lune des mois de septembre, octobre ou novembre. Donc les coraux se basent sur les cycles du clair de lune pour pondre et la pollution lumineuse va donc bouleverser tout ça. Parce que cette étude montre que la perturbation de la période de frais des coraux est associée à l'exposition de la lumière artificielle de nuit. Donc au lieu de se baser sur le cycle lunaire, les coraux vont se calquer sur la lumière artificielle de nuit puisqu'elle va masquer les cycles naturels de la lumière. Donc comment les chercheurs s'y sont pris? À l'aide d'un atlas récemment publié sur la pollution lumineuse sous-marine, les chercheurs ont analysé un ensemble de données mondiales, soit 2135 observations de pontes depuis le début du XXIe siècle. En résumé, les coraux exposés à la pollution lumineuse pondent entre 1 et 3 jours plus près de la pleine lune par rapport à ceux des récifs non éclairés. La lumière artificielle de nuit pourrait donc avancer le déclencheur de la ponte en créant une période perçue de faible luminosité entre le coucher du soleil et la montée de la lune, les nuits suivant la pleine lune. Conséquence, le fait d'avancer le moment de la ponte en masse pourrait diminuer la probabilité de fécondation et de survie des gamètes. Et enfin, dernière étude, je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler bien évidemment des herbiers de Posidonie, espèce sur laquelle je travaille depuis des mois, et bien évidemment, la lumière artificielle bouleverse aussi son développement. Alors c'est une étude qui a été publiée en juin 2023 par Del Carbonare et Hall. Les chercheurs se sont basés sur une espèce, l'herbier de Posidonie, espèce endémique de la Méditerranée, poumon de la Méditerranée, en se focalisant sur les réponses moléculaires et physiologiques de l'herbier à la lumière artificielle de nuit. Ils en ont conclu une altération génétique qui contribuerait à la diminution de la croissance des feuilles de Posidonie et que la lumière artificielle contribuerait au phénomène de régression des herbiers que l'on rencontre actuellement en Méditerranée. Pour en savoir plus sur ces herbiers, un prochain épisode est prévu sur ce sujet. Pour conclure, j'espère ne pas trop vous avoir détruit le moral avec toutes ces magnifiques études, mais voilà, c'est un fait, c'est une réalité. La lumière artificielle impacte significativement les écosystèmes marins. L'éclairage artificiel perturbe les espèces qui utilisent des indices lumineux naturels pour s'orienter, naviguer, féconder et croître naturellement. Des mesures d'atténuation et des changements de politique sont nécessaires de toute urgence pour lutter contre l'impact de la pollution lumineuse artificielle sur ces écosystèmes, y compris la création de zones sombres, la réduction des intensités lumineuses et l'amélioration de la technologie d'éclairage. En gros, on fait comme à la maison, c'est pas Versailles ici, on éteint les lumières. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le liker, le partager autour de toi. Ça me fait super plaisir et en plus, ça permet au podcast de gagner en visibilité. Allez, sur ce, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao !